Aujourd'hui, dimanche 4 février, je vais bien. Enfin, je vais bien, je vais pas mal. En tout cas, je vais mieux que mon président. Mathieu Gallet, qui s'est fait virer comme un malpropre, il y a 4 jours. Bref. Après les émeutes de la semaine dernière pour acheter du Nutella, cette semaine, ça a recommencé pour des couches culottes. Non, mais est-ce que je vis dans un pays de cons ou bien dans un pays de crétins? Alors les couches, à la limite, je comprends, ça coûte cher, on en a besoin pour les petits et les petits vieux. Mais le Nutella, bordel, ça va pas la tête! Les flics ont dû intervenir pour séparer les gens qui se bastonnaient pour profiter des 70% de réduction sur le Nutella. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est même intervenu pour calmer les esprits. Il demande au magasin Intermarché d'arrêter ce genre de promo. Une loi serait, paraît-il, en préparation pour que ce genre d'incident n'arrive plus jamais. Non mais en rêve! En France, c'est officiel, il y a un Nutella Gate. Alors je crois que j'ai la réponse à ma question de tout à l'heure. En fait, j'habite dans un pays de cons dirigé par des crétins. Enfin, il n'y a pas que des cons. Le mec ou la nana responsable des promos chez Intermarché est un vrai génie. Jamais l'enseigne n'avait eu une telle publicité. Du coup, comme ça a l'air de marcher, j'en appelle à la direction de France Inter. À chaque auditeur qui nous écoute le dimanche entre 17h et 18h, un pot de Nutella gratos. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'aux femmes, exceptionnelles, les femmes de talent, bien entendu, ça va de soi. Pour m'accompagner, l'homme de tous les talents, culture, drôlerie, exotisme. Comment allez-vous, Albert Algo?
Je vais très bien, d'autant plus que vous me flattez comme c'est pas possible.
Et vous le méritez.
Donc mon orgueil de cabot rutile et je gémis de bonheur. Mais je viens quand même, il faut que je sois modeste, je vais venir avec un cousin célèbre et avec un très vieil ami. Bonjour Charles, je suis là à vos côtés.
Schizophrénie.
Merci Albert.
Juste un petit mot comme chaque semaine. On en est où des cœurs simples?
Les cœurs simples, eh bien écoutez, le livre est en réimpression et donc j'invite les auditeurs à l'acheter, à l'offrir. C'est un recueil de textes qui mettent en valeur dans la littérature des simples d'esprit, des simplets, des autistes, des arriérés mentaux dans la littérature et illustrés par les plus grands auteurs de BD, de Bilal à Tardi en passant par Zep, etc. Et les droits de ce livre vont à un fonds de dotation qui s'appelle La Bonne Aventure pour aider des personnes autistes, j'allais dire en déréliction, c'est-à-dire dont tout le monde se fout.
Voilà. D'accord, c'est pour une bonne action, donc n'hésitez pas. Et si je peux quand même avoir mes 10% sur les ventes qui sont liées justement à cette promotion.
J'y réfléchis.
Très très bien. On apprend à mieux la connaître un peu plus chaque semaine. Elle est présente autour de cette table. C'est Christine, notre attachée de production. Christine, bonjour.
Bonjour.
Quoi de neuf?
Eh bien écoute, vu le beau temps, je suis partie à l'aventure. Me balader.
Merci Christine, c'est un peu trop long, je suis désolé. Autre élément incontournable de vous les femmes, un homme bizarre, un homme curieux, aussi bien intellectuellement que physiquement. Il ne parle que par micro interposé, quelquefois il y a des surprises.
On n'est pas au Venezuela ici.
Eh non, on n'est pas au Venezuela et ce génie c'est Monsieur Mélenchon.
Exactement.
Bon, en même temps, c'est pas à vous qu'il répondait, mais
non.
On en a sous le coude des petites réflexions de Mélenchon et c'est toujours très agréable de voir ce type qui est si content d'être interrogé par les médias et si délicieux avec ceux qui posent des questions.
Il est si étonnant.
Vous avez été gentil avec les gens que vous avez rencontrés?
Moi, j'ai été très gentil, mais c'est le climat qui ne m'aide pas parce que cette pluie sans fin, c'est très difficile pour
et
faire
la
des
scène qui...
Et qui monte.
Qui monte.
Pour
qui
faire
remonte.
Des... Pour faire des micro-trottoirs, c'est des conditions de travail très déplorables. Je vais être obligé de me rabattre sur les cafés si ça continue. Hein, mais bon.
Mon pauvre, comme si vous n'y étiez pas assez souvent.
Non, je me force.
Vous êtes intéressé aux gens et à ce qu'ils pensaient de la pub. Et voilà,
et voilà, vous en saurez plus tout à l'heure. Restez
très,
à l'écoute.
Et aujourd'hui, en ce dimanche 4 février, nos invités sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Elle vient nous présenter son livre « Sur les pavés, la pub » chez Houellebecq Éditions. Les nouvelles formes de publicité, la publicité du 21e siècle. Anania, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va.
Je suis ravi de vous rencontrer en vrai. Face à vous, il fallait de l'aventure. Édition de l'Aube, Irène Frein, irréductible aventurière de la plume, de l'imagination et de la vie. C'est très joli ce que je viens de dire, mais c'est pas de moi, c'est d'Albert Algou. Irène Frein, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ça se voit.
La pluie ne me fait pas peur.
Ah, mais voilà, voilà, heureusement
qu'il y a des...
Sans de Bretonne ne saurait mentir.
Oui,
exactement.
Je vais vous passer mon micro, moi, puis vous allez faire les micros trop tard.
Et je suis waterproof depuis ma naissance. Je suis passée à travers tant de choses, de toute façon.
Et c'est pas tous les dimanches qu'on a des invités étanches, je peux vous le dire.
C'est vrai.
C'est une présentation très très sommaire. Pour mieux vous connaître, mesdames, je laisse la parole à un de nos collaborateurs. Il s'agit de Jean-Philippe Manœuvre. C'est à vous, Jean-Philippe.
Hello, you women! Putain, Dani, décidément, t'assures gravissimo! Le casting de Vous les femmes, c'est vraiment de la balle! Ça me rappelle celui de mon cousin Philippe dans son émission culte Oufissime, les enfants du rock.
Oui, Jean-Philippe, mais nos invités ne sont pas spécialement rock.
What? Qu'est pas ça, Danielo? Danielo est à loco. Qu'est-ce que j'entends? Irène Frein, elle est complètement rock. Plus précisément, More Precisely, rock psychédélique. Putain, man, si t'avais lu La fille à histoire, page 222, 222, il y a une phrase qui aurait dû te sauter aux yeux, je cite. De cette maison, déjà une part de moi s'est enfuie. Ça te dit rien?
Ah, mais j'attends vos lumières, Jean-Philippe, j'ai l'impression qu'il y a Irène aussi.
Mais Danny, fuck the fucking fuck, j'en suis sûr, I'm certain, c'est une réminiscence de She's Leaving Home, elle quitte la maison, une des chansons de l'album des Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, et sur le même album, il y a la chanson Within You, Without You. Écoute ça,
ah ouais.
Là, George Harrison est influencé par la culture indienne, exactly comme Irène Frein. T'aurais dû lire aussi le Nabab, Devi, Quai des Indes, la Vallée des Hommes Perdus, l'Inde Secrète, Gandhi, la Liberté en Marche.
Je trouve votre développement un peu tiré par les cheveux, si je peux me
permettre. Pas les tiens, en tout cas, si c'est comme ça, je me casse. Ciao,
c'est ça, ni ceux de Gandhi, hein.
Parlez-vous. Si vous insistez, je reste. Je reste parce qu'il n'y a pas
à s'en débarrasser.
Il n'y a pas qu'Irène Frein qui soit rock, Anne Mania aussi. Culture pub, c'était complètement rock'n'roll. Écoute ça. Waouh, Matumba, le générique cultissime qui déchire grave, complètement progressive rock aux expérimentations rythmiques, harmoniques et instrumentales du rock progressif dont Sgt. Pepper's, justement, j'en parlais à l'instant avant que je me tire, contient des éléments précurseurs. C'est fantastico, tout se tient, Danny.
Je demande qu'à vous croire, Jean-Philippe.
Mais c'est évident, it's obvious, Danai. Aujourd'hui, si t'as lu son livre, Anne Mania explique que la pub a créé de nouvelles techniques dont l'ambiance qui permet aux marques de s'intégrer en très grand relief pour interpeller les passants afin de créer le wow effect, ou si tu préfères le waouh et le buzz. Mais l'ambiance, c'est aussi de l'électro, de l'acid house, une zig qui crée atmosphère planante, exactement comme les pubs sur les pavés. Je te l'ai dit, tout se tient. D'ailleurs, pour Anne Mignon, la pub de rue fait retomber les spectateurs en enfance comme moi. Elle les fait entrer dans un monde qui rappelle celui d'Alice au pays des merveilles, Alice in Wonderland, qui comme par hasard est un des livres préférés d'Irène Frein, page 229 de La fille à histoire. Elle écrit, je la cite, Alice, en somme, c'était ma sœur de papier. Je nous trouvais quantité de points communs. Tu vois, Dani, tout se tient. Bonne émission. Je vais crever maintenant.
On va vous laisser reprendre vos esprits. Merci, Jean-Philippe, en tout cas. Mesdames, on est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter dans Vous les femmes. Petit biscuit, Waterfall.
Oh,
Waterfall, petit biscuit sur France Inter dans Vous les femmes. Je vous le répète, on est ensemble jusqu'à 18h les petits amis.
Vous les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui ? Les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Et en très bonne compagnie avec Anne Manien pour Sur les pavés, la pub chez Webec Édition et Irène Frein, Il me fallait de l'aventure, édition de l'Aube. Mesdames, nous allons revenir sur quelques dates importantes de votre parcours et on commence par vous, Irène Frein. On commence en 1954. À cette époque, vous entendez votre maman chanter.
Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie.
Lynn Renaud, ma petite folie, et vous dites, c'est ça qui m'intéresse, je veux être une petite fofolle et avoir un grain de fantaisie, mais vous gardez tout pour vous, pourquoi ?
Parce que je ne me sens pas dans un milieu, enfin je me sens carrément dans un milieu hostile, en tout cas quand mon père n'est pas là. Et c'est-à-dire que ma mère était ce qu'on appelle une mère rejetante à la naissance et ne pouvait pas créer le lien avec moi. Je ne la stigmatise pas quand je dis ça, c'est une pathologie dépressive en fait. Et moi j'essayais désespérément de me faire aimer d'elle. Donc en 54, au moment de cette chanson, j'ai commencé par appeler la voisine maman et ma mère s'en est pas aperçu. Donc on a été dénoncé par le voisin, on vivait dans une toute petite cour, et mon père m'a dit ce qu'il fallait dire. Une mère, on n'en a qu'une, tu vas me faire le plaisir d'appeler ta mère maman. J'ai dit non, menace de cagibi, et là j'ai fait une négo. Et comme cette dame s'appelait, disons, Madame Douarec, enfin un de ces noms bretons qui se terminent en Ec, qui passe au vrai nom, j'ai dit je veux l'appeler Maman Ec. Et mon père était tellement stupéfait par cette astuce linguistique, c'était pas mal hein, quand même, qu'il a dit oui. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai une mère officielle et j'ai une mère concubine. J'ai des plaisirs différents de l'une à l'autre parce que ma mère effectivement elle veut mériter son titre de mère parce que ça ne se fait pas quand même de pas aimer son enfant, elle fait tout ce qu'elle peut, donc moi j'obtiens des tas de robes de ma mère qui est couturière, mes sœurs aussi d'ailleurs par la même occasion, pourtant l'une d'entre elles était assez désagréable, et puis je passe sinon chez Maman Ec, et Maman Ec détestée par mon père au motif qu'elle est grasse. Et mon père, c'est le règne du sec et de la diététique.
Elle lit des romans photos aussi.
Elle lit des romans photos. Et moi, j'ai droit à une chose absolument transgressive. Aller faire des câlins sur les genoux de Maman Ec, qui ne porte pas de tablier, rendez compte, dans les années 50, et qui a du rouge à lèvres, en journée, et du vernis à ongles. Et puis surtout, qui me fait à 4 heures une chose interdite, mais de chez interdite, c'est me servir du pain frais arrosé de beurre salé noir. Et ça, chez moi, c'était, pour mon père, c'était le comble de l'abomination alimentaire. Mais je transgressais, je faisais ça. Et du moment, ma mère fermait les yeux du moment qu'elle ne m'avait pas dans les pattes, comme elle disait. Donc j'ai négocié, c'était assez joyeux, hein, comme enfant de mère rejetante. Ce livre est assez rock'n'roll de ce côté-là.
Ouais,
la petite, elle se défend bien.
Juan Mania, qui est spécialiste ou connu comme ça, spécialiste de la pub, est-ce qu'il y a des consommateurs rejetants ? De la pub.
Oh, beaucoup et de plus
beaucoup,
en plus.
De plus en
et
plus.
C'est bien le problème. Ouais.
C'est le souci principal.
Ah, bah oui.
Mais ça peut être stimulant aussi pour les pubiers.
Oui, oui, c'est stimulant, mais les jeunes, ils mettent des adblockers pour ne pas voir la pub sur Internet. Non, non, les gens détestent la pub.
Donc les rejetants sont à la mode. On continue avec vous, Irène Frein, on passe en 1968. C'est la découverte d'un film, Le Lauréat, et particulièrement sa BO.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
The Sounds of Silence, Simon & Garfunkel. Et vous dites que c'est le fond sonore de vos années ferventes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire qu'on a cru pouvoir tout refaire et pour pour le groupe auquel j'appartenais et l'homme avec qui je vivais et je vis toujours d'ailleurs, c'était tout repeindre à la couleur de la poésie, être en apnée constamment comme le héros du film et surtout pas la vie des parents, pas la vie imposée par la société. Et nous, on était deux littéraires. On est partis à Paris, on était à Rennes à ce moment-là. Et on a eu un enfant très vite. Et on a fallu qu'on se débrouille, mais on voulait, et on y est arrivé, à conserver cette espèce de d'ardeur à vivre des choses différentes, à vouloir repeindre le monde différent, et puis aussi, je crois, une certaine forme de poésie. Et cette poésie, je m'en suis aperçue il y a très récemment, parce que maintenant, j'ai une fille qui vit en Californie, sur les lieux où cette histoire, le lauréat, a été tournée, une histoire un peu californienne, d'ailleurs. Et quand je la regarde, alors, ce que je trouve formidable, c'est sa présence poétique. Ça m'a foudroyée. Elle a 48 ans. Et elle a gardé, et je me suis dit, comment se fait-il, ça charme évidemment beaucoup les hommes, comment se fait-il qu'elle soit comme ça, alors qu'elle est dans ce business, et c'est assez hard de business aux États-Unis, dans une énorme firme de chaussures, et elle a gardé ça. Et je crois que c'est ces 3, 4, 5 années où elle a aspiré ça, et quand elle parle de son enfance, elle en parle justement comme une période extrêmement poétique. Et là, on aspirait la grâce de tout ce qui passait, qui était beau. Il fallait croûter, on n'avait pas toujours. On vivotait avec le resto U, on donnait des cours. Moi, j'ai travaillé très jeune, à 21 ans, j'étais déjà prof.
Vous étiez agrégé très jeune.
Oui, à 22 ans, j'étais agrégé.
Venant d'un milieu très, très modeste.
Oui, alors c'était. Alors, la méritocratie. J'y croyais, mais à ma façon, c'est-à-dire que je n'ai suivi aucun cours directement en Sorbonne. J'ai travaillé à la maison avec mon enfant, mes cours que je donnais, et j'écoutais Radio Sorbonne, et je faisais un cours par correspondance. J'ai commencé, je crois, à un quart en thème grec, on nous faisait traduire de Jean du La Fontaine en grec de ancienne d'époque de Platon.
C'est dingue.
C'est complètement dingue. Je le faisais parce que, en fait, mon but, c'était d'avoir un salaire convenable, une stabilité pour pouvoir, en fait, transmettre tout ce à quoi je croyais dans les lycées, collèges. Vous voyez, un peu quand, à notre époque, quand on pensait ça, il fallait quand même être un peu barge. Et c'est ça que je veux dire par faire vente. Il y avait une fièvre et il y avait une foi en même temps.
D'accord.
Et à côté de ça, j'ai noté juste que ça fait quand même 50 ans que vous vivez avec Monsieur Frein, quoi.
Ouais, vous avez c'est dit... un mec vachement bien.
On passe à 1980. Là, j'imagine que c'est un choc. C'est votre première fois en Inde. Racontez-nous.
Ah, c'est un vrai choc. C'est-à-dire que Jean-Claude Lattès, c'est Nicolas Lattès, Jean-Claude Lattès qui vient,
vient de disparaître, grand éditeur.
Jean-Claude a vu et Nicole ont vu. C'était un couple indissociable. Nicole est toujours là et c'est une femme formidable. Ce que personne n'avait vu, c'est qu'en fait, j'étais pas une universitaire, j'étais pas une prof. C'est que ma vraie nature, c'était celle de la petite fille qui, la fille à histoire, c'est-à-dire celle qui se racontait des histoires tout bas pour supporter la maman qui aimait pas. Et c'était narré, raconté et partagé. Et ils m'ont proposé d'écrire un livre, un roman, sur René Madec, petit muse breton qui était devenu nabab en Inde et qui était venu mourir à ce point de départ, Quimper Corentin, 18e. Et quand, je me souviens, Nicole Lattès m'a proposé, j'ai rougi jusqu'à la pointe des cheveux, parce que c'était mon désir le plus profond. Et il y en avait un autre par derrière. Et je suis partie en Inde avec les mémoires de ce type du 18e siècle que j'avais trouvé.
Ça a donné le nabab.
À BNF, oui, ça a donné le nabab. Et quand je suis arrivée en Inde, j'avais jamais écrit de roman quand même. C'est complètement... Et là, j'ai reçu le choc de l'Inde. Ça a pris 24 heures dans la gueule. Et là, l'Inde, elle vous révèle à ce que vous êtes vraiment. Donc j'étais partie universitaire, j'enseignais même le latin à la Sorbonne. Vous voyez, c'est vous dire, hein, la concordance des temps, les subjonctifs imparfaits, les gérondifs, tous ces trucs. Parce que je croyais que j'étais faite pour continuer jusqu'à plus soif ma thèse sur le vocabulaire du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je me prends l'Inde dans la gueule. Et je reviens donc, ben je n'ai qu'une envie, c'est raconter, narrer, et faire passer la vérité par la fiction, ce qui est le propre même de la littérature.
Bon, c'est quoi, Anne Magnin, du parcours d'Irène Frein? C'est carrément, c'est incroyable. Enfin, c'est rêvé. On a l'impression que c'est un film.
C'était les années 70.
Oui, mais c'est fou.
C'était l'Inde, c'était les hippies. Après, ils revenaient de Goa.
Oui, mais il y a plein de gens qui font ça, de se mettre maintenant à écrire aussi.
Mais
oui,
de rester dans un aussi bon état.
Ah oui, c'est vrai, ça maintient jeune. Mais
moi, alors là, mon parcours n'a pas du tout été les hippies, parce que...
Mais vous l'étiez, juste d'après ce que vous venez de raconter, même si vous n'en étiez pas une, vous en étiez une quand même.
Non, parce que les mouvements hippies m'avaient... Précisément, moi, j'avais connu l'Inde petite, puisque j'étais née dans un port de la Compagnie des Indes.
L'Orient.
Et ma mère, et c'était un seul moment fusionnel que j'avais eu avec elle, m'avait emmenée une fois sur le territoire de la Compagnie des Indes, qu'on appelait la Cité Interdite à l'époque, à l'Orient, qui porte ce nom, parce que c'était l'Orient, avec une apostrophe.
Vous le dites d'ailleurs, vous l'écrivez. Vous voulez partir, vous faites une fixation sur ce train qui va vous emmener à Rennes, et puis après à Paris, c'est l'envie de découverte.
J'avais l'envie d'aventure. J'avais l'envie d'aventure, mais...
C'est une démarche un petit peu rock'n'roll à la fois.
Oui, mais il y a toujours... Bah oui, mais alors il y en a toujours eu des
regardez, il y en avait plus
et Nerval et Flaubert qui vont qui foutent le camp sur les routes, qui s'en vont. C'était dangereux à l'époque d'aller en Égypte. Dumas quand il va au fin fond de la Sibérie. Je pense que tout écrivain a une volonté de briser l'espace parce que c'est dans l'espace qu'il va trouver son espace-temps et écrire, c'est fabriquer du temps. Et donc, précisément, ces hippies, je vous assure, moi, je les sentais, ceux que je voyais à Paris, en tout cas, qui étaient certains de mes copains, je les sentais pas là-dedans. Je les sentais très individualistes et pas du tout dans, pas du tout dans la démarche qui m'intéresse, c'est d'aller voir les gens, les humains, et de nourrir ce que j'écris de ce que je ressens ou que je comprends, que j'essaie de comprendre de la tribu des humains.
Moi,
je pense
d'accord.
Que la littérature, c'est ça. Et ça aurait été Ouagadougou, ou ça aurait été... un jour, il s'est passé une chose. On me donnait pas mon visa à l'ambassade de l'Inde. C'était au moment où j'allais chercher des vies. Je savais très bien. On l'avait donné à mon mari, mais pas à moi. Et mon mari est retourné. Il a dit, mais pourquoi vous donnez pas? Moi, j'étais en train de préparer mon voyage. J'avais pas le temps. Il y est allé. Et il a dit, on ne sait pas ce qu'elle va écrire. Il faut qu'elle donne des assurances. Mon mari lui a répondu une phrase que j'ai reprise dans Il me fallait de l'aventure. Ma femme, voulant fermer dans un F2 au fin fond de n'importe quelle petite ville moyenne française, perdue, voulant fermer à clé, un mois après, il y a un roman. C'est comme ça qu'il a obtenu mon visa.
C'est comme ça qu'il vous a fait bosser, surtout, il vous enfermait.
Ouais, bon. Ouais. Et voilà, c'est le secret, c'est que c'est mon Mac, c'est ça que vous voulez dire.
C'est ça, ouais.
Ouais, en plus, ça doit être lui qui écrit mes livres, vous savez.
Ah, on n'a pas dit ça. En tout cas, moi, je n'osais pas le dire.
Ouais.
En tout cas, moi,
alors, la vérité a éclaté sur France Inter ce dimanche.
Exactement, ça a éclaté.
Je suis perdue de réputation.
C'est foutu, c'est pour
c'est
vous.
C'est foutu.
Ben justement, on parle d'aujourd'hui, le 4 février 2018. Vous venez nous voir pour parler de Il me fallait de l'aventure, Florilège de textes parus dans le 1, l'hebdo. C'est quoi la distinction entre l'ailleurs et quelque part?
Alors, petite, j'étais hiérarchique. En tout, j'étais...
Vous faisiez des classements.
Tout passait par là. Et donc, le quelque part, c'était là où ma mère voulait aller. Quand mon père ne voulait pas sortir, mon père ne voulait presque jamais sortir parce qu'il était, il disait toujours, moi j'en ai assez soupé de sortir pendant la guerre. Donc il avait une équipée de 5 ans quand même pendant la guerre de Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de gens. Mais lui, il disait, j'en ai assez soupé. Donc il voulait pas aller quelque part. Alors quelque part, pour ma mère, c'était soit on allait pique-niquer dans la forêt de Toulfouenne, pas loin de l'Orient, soit un mauvais quelque part, c'était juste dans les champs, c'était à 3-4 kilomètres de notre maison, donc on allait sous les pommiers, c'était vraiment assez triste et ennuyeux, on n'avait pas grand-chose à faire. Et puis il y avait le super quelque part, c'était la plage. La plage pour une famille de 7, ça, c'était le quart, ça coûtait cher, c'était fatigué, ils n'avaient pas envie de faire 7-8 kilomètres à pied multipliés par deux, donc on avait ça une ou deux fois par an, c'était l'Armor Plage près de l'Orient. Et là, c'était formidable. Mais au bout d'un moment, ça m'a lassée. Et donc, j'ai pisté un îlot Et là, je me suis dit, comme je ne pouvais pas y aller, je ne veux pas nager, pas de bateau, c'était quand même assez loin. Les Lorientais connaissaient petit îlot en face de Toulard dans la rade. Et je me suis dit, quand je serai grande, je nagerai et j'irai là. Et là, je l'ai appelé ailleurs parce que quand je faisais des bêtises, ma mère m'engueulait et elle disait, tu verras, quand tu seras grande et que tu iras ailleurs, on saura bien te dresser.
Ah oui.
Et moi, je disais, ils ne me dresseront pas. Et puis, de toute façon, j'irai ailleurs. Et ailleurs est devenu le symbole de la transgression ultime. C'est-à-dire qu'il fallait que je me mette bien avec ceux que ma mère appelait les autres. Les autres, c'était ceux qui jugeaient, qui nous jugeaient parce qu'on était pauvres, parce que mes parents n'étaient pas aussi raffinés que les gens qui avaient des commerces, par exemple. Il y avait des tas de hiérarchies dans cette ville. Et puis, on avait honte pour beaucoup de choses, à commencer le manque d'argent. J'irai ailleurs, je verrai les autres, ceux qui ont du argent, qui savent plein de choses. Et je m'installerai ailleurs. Et puis, il y avait un tropisme breton d'aller à Paris. Il y avait des gens dans ma famille qui étaient allés à Paris.
Ça vous parle, cette différence entre l'ailleurs et le quelque part, ou Anne-Manie ?
Bon, alors, attendez, si je récapitule.
Le
quelque part, c'est l'Armor-Plage.
Oui.
Et ailleurs, c'est tout le reste, où on va en train.
Ah oui, mais...
Et où on rit.
Oui, c'est... Oui, voilà. C'est... Non, en fait, c'est briser les limites du monde. Voilà. Mais je crois aussi, dans le fond, c'était ma façon... aussi d'écrire le monde. Tout écrivain écrit le monde. Donc, le monde de l'ailleurs était nécessairement un monde à histoire, où il y avait des gens à histoire qui allaient faire des histoires et à la fin de l'histoire, on pouvait dire « Ah, quelle histoire !» Voilà, c'était ça, j'étais narrative. Et pour être narratif, il faut bouger.
On va passer à vous, Anne Magnin. 1987, vous arrivez à Paris. Évidemment, Paris est fait de gens qui ne sont pas parisiens au départ. Et c'est le lancement d'Onde de choc sur M6, un magazine dédié à la publicité. C'était quoi l'arrivée à Paris? Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé plutôt bien. J'ai tout laissé à Lyon, j'en avais marre. Et puis je suis arrivée, j'ai cherché des piges à CB News. Et ils m'ont dit oui, ben voilà. Donc c'était à côté du Pont Neuf, j'étais très impressionnée. Je trouvais ça sympa comme tout. Quand on vient de Lyon, Paris c'est comme dans du beurre quoi. Les Lyonnais ils sont un peu refermés quoi. Ils commencent à travailler tôt, ils sont toujours pas d'accord.
Pas rigolo. En tout cas, pas cela.
Oui.
1999, c'est la création sur France 5 du Mag Echo. Et vous dites que vous avez accepté et que vous n'y connaissiez rien.
Oui. Ben oui, je connaissais rien à l'économie.
C'est de la folie ou c'est juste
du culot ? Non, ben moi, je me suis toujours débrouillée pour me faire payer pour apprendre. Alors, j'ai lu des articles pour essayer de comprendre. Et puis, ça m'a permis de poser peut-être des questions moins convenues, quoi.
C'est un peu comme vous et les femmes, Daniel. C'est pour ça qu'on vous a confié cette émission.
Oui, non, mais
exactement.
C'est son purgatoire.
Nadine n'y connaît rien du tout.
Voilà.
On va lui confier.
Il va sûrement poser les bonnes questions.
Il va peut-être s'intéresser au dossier. Alors, 2005, début dans l'enseignement. Là, on s'éloigne de la télé.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui vieillissent à la télé.
Non.
Et donc, voilà, ça fait comme ça. J'ai été chercher un peu de travail dans des écoles de communication, qui étaient les endroits où on savait ce que j'avais fait. Moi, j'avais tout fait pour sortir de la pub. J'ai fait des émissions éco, des émissions culturelles. J'ai rencontré plein de gens bizarres dans le PAF, comme on disait. Et puis, bon, à un moment, c'est un monde brutal, l'audiovisuel. Vraiment brutal.
Ah bah, parlez-en à Mathieu Gallet.
Président.
Donc, ils m'ont viré en plein milieu de la saison sur France 5. J'ai fait d'autres trucs un peu rigolos. J'ai travaillé avec Claude Allègre et Jean-Claude Carrière pour faire un truc sur les sciences. J'ai produit Bec BD pour faire de la culture. Enfin, bon. Puis, à un moment, bon, c'est fatigant. Alors, je me suis tournée vers l'enseignement. Et là, j'ai trouvé des jeunes gens captifs. Ils ne peuvent pas zapper, vous voyez. Ils sont enfermés dans un amphi.
Oui, c'est ça.
Ils sont obligés de vous écouter. Et donc, je me suis dit, c'est bien comme métier.
Il n'y a pas de smartphone encore ?
Bon, bah, il n'y a que ça. Non, mais alors, ça, il faut développer des techniques très particulières pour dégoûter l'étudiant du smartphone. Ça demande beaucoup d'expérience.
Un brouilleur ?
Partagé.
Alors,
il y a beaucoup de professeurs qui nous écoutent.
J'ai tout essayé. Alors, maintenant, je leur dis plus, je leur dis cachez-vous pour écrire votre texto, ça m'offense.
Ah oui, alors les réactions?
Ils se cachent, ouais. Du coup, donc je les vois moins, c'est moins énervant. Si on leur enlève, c'est comme s'ils ne pouvaient plus respirer. Mais bon, j'ai tout essayé, j'ai essayé d'expliquer que c'est un outil d'asservissement, quand on les appellerait le dimanche soir, pour le boulot, ça
ils
serait pas drôle.
Ils ont quel âge?
Ils ont 23 ans environ, voilà, c'est des jeunes gens qui vont... Alors, mais oui, mais ça fait partie du job dans la com, d'être sur son smartphone tout le temps. Snapchat, Instagram, Facebook...
Y a un moment, il faut faire une pause quand même.
Bah, pour m'écouter.
Oui, pour m'écouter, déjà. Déjà, on a la chance de vous avoir, autant vous écouter. Et justement, on vous a aujourd'hui, le 4 février, sur France Inter et vous venez présenter Sur les pavés, la pub qui est sortie en octobre 2017, octobre dernier. Alors, la pub s'est renouvelée au 21e siècle. C'est quoi le concept de pub guérilla ou ambiante?
Alors, c'est justement parce que les gens n'aimaient plus du tout la publicité. Parce qu'au bout d'un moment, n'importe quel humain normalement constitué peut plus supporter ces milliers, ces millions de sollicitations commerciales. Et encore plus aux États-Unis, parce que en France, on a des lois très restrictives qui, d'une certaine façon, nous protègent. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de publicité. En tout cas, on en a moins que les Américains. Et donc, comme les gens ne regardaient plus la pub sur les médias de masse, aux États-Unis, ils ont des appareils pour zapper la pub sur la télé, eh bien, il a fallu trouver une façon de les attaquer par d'autres moyens. C'est ce qu'on appelait la guérilla. Alors, le marketing, il adore avoir des mots...
À chaque fois, c'est très, très agressif. Ouais, c'est très guerrier.
Attaquer. Mais il faut comprendre. Et on parle de nous en tant que cible. Nous sommes des cibles. Donc, le marketing, c'est un art de la guerre. C'est la guerre silencieuse. Mais c'est une petite guerre. C'est les manipulations.
Et du côté des consommateurs, vous parlez de brouilleurs de pub. Je ne savais même pas que ça existait. Ça, les...
Non, ce n'est pas des brouilleurs de pub. C'est pour zapper la pub.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des appareils qui repèrent automatiquement quand il y a des pubs et sur votre télé, voilà.
Et pour se vendre ces appareils, ils font de la pub ou pas?
Même les ad bloqueurs, ceux qui bloquent la pub sur Internet, ils en font aussi, quoi. Ils font de la pub. En fait, c'est un enfer. On l'a découvert avec Internet. Il y a 100 fois, des millions de fois de plus de publicité avec Internet qu'il y en avait avant, quoi. C'est terrifiant. Donc, il faut se protéger. Et donc, les marketeurs, à un moment, les gens de pub, ils se sont dit, il faut quand même qu'on vende nos savonnettes, nos savons, tout ça. Donc, ils ont inventé la guérilla. C'est-à-dire d'aller chercher des gens, là où les gens ne les attendaient pas. Et notamment dans la rue. Plus sur les médias de masse, mais dans la rue, par surprise.
Alors, il faut dire que votre livre est truffé d'exemples. C'est un livre où il y a plein d'images. Et d'ailleurs, il y a des trucs qui sont hyper bien réussis. Il y en a une avec un ours blanc qui fait presque peur.
Oui.
Déjà, rien que sur la couverture, là, ils arrivent à déguiser un lampadaire.
Mais c'est, oui, en pot de peinture avec la peinture rouge qui coule dessus.
Non, c'est une super idée.
En fait, puisque les gens ne sont plus forcément devant la télé ou devant la radio... Pour les attraper, on est sûr qu'ils sont dans la rue, parce que les gens bougent de plus en plus.
Il y a un moment, il faut sortir. Donc
Quand vous dites dans la rue, il faudrait préciser qu'ils ne sont pas des affiches.
Non.
Ça joue sur le trompe-l'œil, ça joue sur la surprise, ça joue sur le mobilier urbain, ça joue sur toutes sortes de supports qui jalonnent nos parcours dans les rues.
En France, on ne connaît pas bien ça, parce que ça a été vite interdit. Mais partout ailleurs dans le monde, dès qu'Internet est apparu, paradoxalement, la pub de rue a commencé. Parce qu'en fait, ça visait le buzz sur le digital. Et on ne peut pas être uniquement digital. Pour faire parler de soi sur le digital, il faut créer un événement quelque part. Et notamment dans la rue. Et en même temps, comme les publicitaires, pour être créatifs, même si, du point de vue des consommateurs, on peut se dire quand même que c'est des arnaqueurs, c'est quand même aussi des gens de culture qui connaissent pas mal de choses. Et c'est des grands-enfants. Ils ont fait ça avec beaucoup d'imagination. Donc il y a des exemples dans ce livre qui sont hyper marrants. Quand Monsieur Propre peint un passage pour piétons pour qu'il soit plus blanc.
Et puis le passage pour piétons qui est peint en jaune pour faire des frites qui sortent d'un cornet.
Mais ça ne se voit que du haut, ça.
Ça se voit que du haut pour les gens très très grands.
Par exemple, pas loin d'ici, la statue de la Liberté avait été revêtue d'un maillot de basketteur
par
Tony
Nike.
Parker, et c'était Nike. Ou dans le métro, à la station, je crois, c'est Champs-Élysées, où Ikea, on peut citer la marque, avait installé des canapés, des vrais canapés
et
dans
même
lesquels
sous des abribus.
Les gens s'asseyaient, ou dans des abribus. Ou alors, plus positive à mes yeux, des abribus transformés en bibliothèque, où les gens, on croyait que c'était photo de livres, mais en fait, c'était des vrais bouquins qui étaient posés.
Absolument.
Donc, vous voyez, c'est l'utilisation de supports inattendus, mais qui sont utilisés par tous les passants et par tous les...
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces marques qui ont utilisé le mobilier urbain, les bancs, les lampadaires, ou qui ont fait des événements avec des faux animaux, etc., les marques les plus audacieuses, c'est les marques culturelles. C'est-à-dire les télévisions, les jeux vidéo, comme si finalement on laissait aux marques culturelles plus de possibilités, en disant elles sont moins sales, c'est moins moche que quand c'est Monsieur Propre. Je prétends que France Inter est également une marque culturelle, avec tout le respect que je lui dois.
Oui,
moi, je suis comme tout le monde, je suis directrice des programmes de France Inter depuis les années 70, comme tous les auditeurs, donc j'aime beaucoup France Inter, mais c'est une marque culturelle qui a besoin de faire de la com aussi. Alors les Anglais, ils sont capables de faire des choses tout à fait extrêmes, comme souvent, les Allemands aussi, mais les Anglais, Channel 4 et compagnie, la BBC, ils se privent pas de faire ce que les marchands de chaussettes peuvent plus faire.
Mesdames, on vous a demandé un titre qui vous rappelait un souvenir particulier. On commence vous avec Irène. C'est Alan Stivell and Friends. Qu'est-ce que ça vous rappelle?
La Corse.
C'est ça.
Absolument.
Les vacances en Corse.
Moi, je l'ai entendu évidemment beaucoup dans les années 70 et 80. Mais le plus beau souvenir, c'est quand j'étais aux marches du Tibet, au Sichuan, et quand j'ai entendu dans un café où j'étais rentrée, dans un très gros village, et un très gros village en Chine, c'est évidemment 25 000 personnes, Alan Sibel.
Alors là, au fin fond de la Chine.
Oui, enfin, plus proche des marches plus proche du Tibet quand même.
Vous voulez dire que les Bretons ont déjà occupé la Chine, ça y est?
Ségalène. Victor Ségalène, il a fait une équipée absolument fantastique de Pékin à justement Sichuan à cheval. Et ça a donné trois des plus beaux textes de ce grand écrivain breton.
Finalement, là, tout à l'heure, on disait la Corse, mais on n'avait pas été assez loin.
Non, c'est
finalement.
Oui,
j'ai été petit, mais ça rappelle la Chine.
Et là, c'était incroyable parce que je crois qu'il comprenait vraiment rien du tout. Moi, je ne comprenais que le début. D'abord, je ne parle pas breton.
Moi, j'ai jamais rien compris à Alan Stevens non plus.
Ah oui, bon, mais
nous, on comprend tout ici.
Oui, mais
moi, je comprends pas les Beatles, mais
la musique est un langage universel, même si on comprend pas les paroles.
Bresonnec, très... braise et bête. Sans voilà, langue bretonne, bravo. Plus de Bretagne.
Non, mais Albert,
moi, j'aime beaucoup Alan Stevens. J'ai du sang breton, mais c'est pas pour ça que j'aime Alan Stevens. Je l'aime beaucoup. C'est un bel artiste.
C'est une belle personne aussi.
Anne Magnan, où on change carrément de mood. Là, on comprend peut-être un petit peu plus les paroles si on n'est pas breton. Un titre qui est resté confidentiel, que personne n'a entendu, Billie Jean Michael Jackson. Ça vous rappelle quoi? Ça vous fait penser à quoi?
Alors, ça me fait penser à une époque super, quand je commençais à faire de la radio à Lyon, Radio Lyon, la radio du progrès. c'était déjà plus les radios libres, mais c'était pas encore, elles ont toutes été récupérées, c'était des radios locales privées. Il y a toute une génération comme ça qui, grâce à ces radios, a pu...
C'était quelle année, ça?
C'était 82. Et puis, c'était aussi, j'avais des copains qui avaient juste derrière la radio ouvert un vidéoclip café. Ça s'appelait Atomic Café. C'était les premiers vidéoclips. En fait, c'est le début de la culture mondialisée, Michael Jackson. Et alors, il mettait MTV. C'était le début des clips. Et donc, le début de ces chansons que tout le monde, y compris en Chine ou en Bretagne, écoutait. C'était Michael Jackson. Et Michael Jackson, moi qui ai un pied dans les années 70, un pied dans les années 80, du moins pour mes jeunes années, ce que j'aime en musique, tout d'un coup, c'était une espèce de fusion, de trucs très nouveaux, très rigolos. Puis en plus, les paroles de cette chanson, je les comprenais pas à l'époque parce qu'il n'était pas crédible du tout pour ces paroles-là. Mais en gros,
on
c'est
avait du mal à
je
croire,
ne suis pas le père de cet enfant. You say I'm the one, but I'm not. This kid is not mine.
On vient à le croire là. On vient à le croire, Michael. Les amis, maintenant, je ne sais pas si ça va être très agréable pour vous, Irène Frey, Anne Magnan, on va revenir sur vos vies, mais ce qu'on appelle façon inter. Façon inter, ça veut dire qu'on va vérifier que vous êtes généreuse et en empathie avec les moins chanceux, les pauvres. Bref, un petit point lutte des classes. On va vous interiser. Irène Frein, romancière, journaliste et historienne. Irène Frein, née dans la misère, au cœur d'une région sinistrée par l'alcool et le vent, la Bretagne. Bretagne, terre de malheur où la culture est noyée dans un mélange de cidre, de chouchène et de guano. Elle a le profil idéal pour être au service de ceux qui n'ont rien, de ceux qui la regardent avec admiration. Mais est-elle proche des petits, de ceux qui n'ont rien ou pas grand-chose? Irène Frein est-elle une femme de cœur?
Non!
Bien sûr que non!
Elle
fait des études stratosphériques pour s'éloigner de sa condition et regarder avec condescendance ceux qui n'ont pas eu la chance de socialement s'élever. Cachée derrière ses succès académiques et littéraires, elle ricane! Crâneuse! Est-ce mieux du côté d'Anne Magnan? Anne Magnan, journaliste, productrice télé, ok, mais surtout, déesse de la pub! La pub pour abuser les masses laborieuses qui, hypnotisées par les logos et les slogans, achètent en masse avec l'argent qu'ils n'ont pas, de quoi mollement se distraire pour oublier la pression herculéenne que leur met le patronat vampire et la société de consommation. En tant que tête pensante et tête chercheuse pour le marketing, Anne Magnan en a-t-elle profité pour s'interroger sur les réels besoins de ceux qui n'ont rien? Est-elle une femme de partage et d'empathie?
Non,
bien sûr que non. Elle préfère complanter pour saigner les mains sur les gavants de Nutella, pour s'en mettre plein les poches le jour, et ce pour mieux le soir sortir et dépenser des fortunes avec ses amis de la télé au foie pourri par l'alcool et ses camarades de pub au cerveau rongé par la coke. Égoïste ! Mesdames, il n'y a pas de quoi être fier, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir parmi nous sur France Inter. Irène, Anne, ne changez rien ! You can't touch this. MC Hammer, on est ensemble jusqu'à 18h, vous les femmes. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do hype? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much and this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're gonna get better. Can't touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. MC Hammer, Can't Touch This sur France Inter. Dans Vous les femmes, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Anne Magnin, Sous les pavés, la pub et Renfrey, il me fallait de l'aventure. Mesdames, voilà, pour évoquer vos ouvrages, je vais laisser la parole à un de nos plus pointus collaborateurs. C'est à vous, Maréchal.
Oui, j'en suis là. Il me fallait de l'aventure. Enfin, Morin, un livre au titre épatant. Enfin, un ouvrage qui parle à mon cœur de soldat qui palpite toujours sous mon tricot en thermolactyle. Oui. Il me faut de l'aventure. C'est exactement ce que je m'étais dit quand je me suis engagé dans la Légion, du temps où je rêvais encore de gloire, de cicatrices, au lieu de croupir au vieux gland, mon EHPAD, où je bossonnais 20 fois dans la nuit, quand je vais aller au Cagouins, personne... Non, personne ne vient m'aider. Exactement comme autrefois, quand au Tonkin,
continuez, je vous en prie,
quand encerclé par les Viettes avec mes légionnaires dans le fort de Gang Bang Phoc, au message de détresse que je lançais pour demander des renforts, ne répondait qu'un angoissant silence radio. Mais respectez ma différence. Mais revenons à votre livre et à vos livres plutôt, Madame Frein, car j'ai également beaucoup aimé La fille à histoire. de ce récit qui, à sa façon, est le récit d'une guerre contre les conventions et le désamour. Je retiens entre autres, car je ne voudrais pas revenir sur ce qui a été dit ici, excellemment, par vous-même, par Morin et surtout par Albert Algout.
Ah, quel homme.
Je retiens, disais-je, l'évocation d'une époque où l'on ne connaissait pas le gâchis, où, comme vous l'écrivez, page 96, on détricotait les pulls pour en faire de nouveaux, on taillait les habits des gosses dans les vieux vêtements. Moi, je vous parle d'un temps où Edmond, mon épouse, reprisait mes chaussettes. D'un temps où un slip, lui aussi tricoté en laine, jaune devant, marron derrière, me durait plus d'un an.
Pas de détail, pas de détail.
Respectez mes états de service.
Continuez.
Bref, une époque qui est exactement le contraire de celle que nous vivons, où la réclame qui jadis se contentait d'incitations aussi discrètes qu'efficaces, du beau, du bon, du bonnet, homo est là et la saleté s'en va, et surtout, il y a bon banania, j'aimais beaucoup, c'est ça, où les réclames n'envahissaient pas tout l'espace urbain comme celle que vous présentez dans votre ouvrage, Madame Magnin, sur les pavés et la pub. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trouvailles absolument épatantes, mais non seulement ces pubs sont une incitation au gâchis consumériste, exception faite, pour exemple, pour l'association Vitae, le World Wealth Fund, c'est pages 34 et 35 de votre livre, mais en plus, que ces nouvelles techniques soient appelées guérilla, alors là, je dis négatif. La guérilla, Madame Magnin, non, quand je suis indigné, je gueule. Je sais ce que c'est. La guérilla, la vraie, je l'ai subie dans ma chair de soldat. C'était la nuit du 4 février 54 à Gang Bang Phoc, dans une embuscade tendue par les Viettes. Dans un piège, je me suis empalé sur un bambou pointu. Et depuis, Madame Magnin, condamnée à vie aux applications de mitosil, je ne peux pas rester assis plus de 3 minutes d'affilée. Aussi vais-je devoir abréger et vous quitter. Mes hommages, mesdames.
Merci, maréchal. Repos.
Vous, les femmes...
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Anne Magnin, on ne peut pas vous recevoir sans que vous évoquiez pour nous l'émission cultissime des années 90 qui passait juste avant le Porn Soft sur M6.
Le film érotique, vous voulez dire?
Oui, Porn Soft, oui. C'est érotique.
Merci de préciser, Anne.
Parce non, mais parce que...
Soft.
Il ne veut pas appeler un chat.
Il y a une vie avant YouPorn. Ça existait de... Voilà.
Oui, mais quelle vie. Tellement triste, tellement terne. Donc, culture pub, mais vous avez dit que c'était l'égalité homme-femme entre vous et Christian Blachas. Lui, vous le qualifiez de libéral un peu macho et vous, la féministe de gauche.
Ouais.
C'était vachement d'avant-garde d'être la première, justement, émission. Bah, parce que on réagit pas, mais même, enfin, maintenant, c'est plus du tout le cas, quoi.
Bah, c'est-à-dire que la télé a toujours été très macho. Enfin, il y a qu'à regarder les filles sur certaines, par exemple, même sur l'info. Il y a des chaînes d'info. Ou c'est des bimbos, quoi. Bon, bref.
Oui, le même modèle, oui. Ken et Barbie.
Voilà. Et pourtant, elles ont l'air intelligentes, et elles le sont, ça, certainement, puisqu'on peut être peut-être. Les deux à la fois.
Mais non, n'empêche pas l'autre.
Qu'est-ce qu'on disait?
On parlait de l'égalité homme-femme à
voilà,
la télé.
Voilà, oui. Et donc, moi, j'étais rédac chef de cette émission. Christian, c'était le patron d'un groupe de presse. Enfin, il y avait son journal CB News, qui était pour les professionnels de la communication. Donc, je fabriquais toute l'émission. Et donc, quand arrivait le moment des plateaux, il y avait ce vieux réflexe qu'il avait de dire, bon, alors, moi, je suis là pour mettre le grain de sel. Puis lui, il fait tout le job, quoi, la structure, les piliers, voilà. Et donc... Un camarade à moi qui regardait l'émission m'a dit « Mais regarde, tu te fais avoir là, ça marche pas. » Donc je lui ai dit « Christian, ça ne marche pas. Je peux pas faire semblant de pas savoir ce qu'il y a dans mon émission, hein, si c'est moi qui l'ai fabriqué. » Et donc on a convenu d'un truc, chacun en tirait au sort, à pile ou face, qui commençait le premier plateau. Et voilà, et c'était un type formidable, Christian. C'est vrai que c'était un mec de droite, c'était très, très macho, mais c'était un très bon patron, et puis il faisait confiance, et puis il a compris l'intérêt qu'il pouvait tirer de la chose, quoi. Il était entouré de femmes, hein, il savait les faire bosser.
Ah voilà, ça savoir faire rêver. Bosser les femmes.
Ouais. Ouais.
Bon, en tout cas, voilà, c'était dans les années 90, et bien plus en avance que nous qui sommes déjà en 2018. Hervé Pochon,
oui,
mon ami, la publicité vous a inspiré? Est-ce que ça a inspiré les gens que vous avez rencontrés?
Bah, bien sûr, parce que ça relie nos invités, puisque Irène Fin est membre fondateur du Women's Forum for the Economy and the Society, et bon, et la publicité de manière, on n'a rien à vous apprendre. Et donc j'ai eu l'idée d'aller voir les gens dans la rue en leur disant, voilà, maintenant on va augmenter la quantité de publicité sur le service public, et en échange, nous allons baisser les impôts. Est-ce que vous êtes pour? On l'écoute.
Ah ouais, c'est très très bien. On va gagner de l'argent du coup.
Ça vous gêne pas qu'on mette plus de publicité sur le service public?
Bon non, on sera sponsorisé maintenant.
Même la publicité pour les cigarettes et pour l'alcool?
Je pense que c'est une bonne idée. S'il y a beaucoup moins d'impôts à payer, parce qu'ils vont quand même ramasser du pognon, hein, avec la publicité.
Le patron, il dit que ça, c'est une super idée. Voilà. Si ça permet de baisser les impôts,
il faut mettre de la pub, il n'y a pas de problème. Si ça permet de payer moins d'impôts, moi je suis pour.
Moi, la publicité, déjà, j'en ai jusque-là.
Voilà, donc autant vous dire que les gens étaient assez pour payer moins d'impôts, et moi j'étais assez désespéré de me dire qu'il pourrait y avoir plus de publicité sur France Inter, je trouve qu'il y en a déjà trop.
Mais vous avez que dalle par rapport aux radios, aux autres.
Ah bah bien sûr, on est privilégié, mais vous savez que...
Non, c'est trois fois rien, elle est toute mignonne, la pub qui est chez vous, c'est trois fois rien.
Ah non, mais c'est la même publicité que sur les autres radios, faut pas dire qu'elle est toute mignonne.
Oh non, il y a bien pire, on voit que vous écoutez pas Europe 1 ou RTL, vous.
Non, c'est vrai.
C'est quoi ça?
On arrive à faire du négationnisme. Les amis, c'est bientôt la fin de cette émission.
Déjà ?
On ne saurait se séparer sans vous couvrir de cadeaux.
Alors,
Alberto, c'est à vous.
Oui,
c'est vous
pour
le
vous, Irène Frein, un beau livre de notre ami Jérôme et confrère Jérôme Garcin qui anime Le Masque et la Plume le dimanche à 20h. C'est Le Syndrome de Garcin chez Gallimard. C'est un livre sur la filiation, sur les origines. Alors, c'est pas du tout les mêmes que les vôtres. Hein. L'enfance de Jérôme s'est marquée par deux grands éminents médecins issus de longues dynasties médicales. Et il raconte, il se demande pourquoi cette filiation s'est interrompue. Mais il pose des questions que vous vous posez certainement vous aussi. À la fin du livre, il dit finalement, on écrit pour se rassurer en feignant de les ordonner sur la page et les maîtriser dans sa tête pour calmer, il parle des frayeurs, pour calmer ses frayeurs et pour rendre présentable ce qui ne l'est pas toujours. C'est vraiment un livre tout à fait formidable. Alors je suis partial parce que j'aime beaucoup Jérôme Garcin, mais c'est Le Syndrome de Garcin chez Gallimard, je vous l'offre. Et puis on va rester en Inde, hein, pour vous Anne Magnin, je vais vous offrir Ravi Shankar, que vous aimez beaucoup, Irène Frein, c'est Inde du Nord, North India, c'est un disque Okora Radio France, donc on reste dans la maison, et c'est Pandit Ravi Shankar, c'est vraiment somptueux. Alors j'ai cherché dans ma discothèque, mais je ne l'avais pas, je voulais vous l'offrir aussi, Irène Frein, mais vous l'avez sans doute, c'est Raghunath Manet, c'est Music and Dance, c'est un musicien, un danseur, c'est chez Frémo et Associés, c'est un disque absolument magnifique, c'est le patrimoine du sud de l'Inde, là on est dans le nord de l'Inde avec Ravi Shankar et avec Raghunath Manet, on est dans le sud, donc je vous l'offrirai une autre fois. Ah oui. Mais je le cite et j'incite les auditeurs à l'acheter.
Merci beaucoup.
Voilà, Frémo et Associés, excellente maison.
Merci.
Voilà, c'était les cadeaux d'Alberto. Cette fois, c'est officiel, c'est la fin de l'émission. Aujourd'hui, nos invités étaient Anne Magnin, Sur les pavés, la pub Oebek, édition Irène Frein, Me fallait de l'aventure, édition de l'eau. Merci Albert Algout, merci Laurent Pochon, bien entendu. À la réalisation, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production. On l'a entendu tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle est bavarde, Christine Kern. À la technique, Pierre-Yves de Rolin, programmation musicale, Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Juliette Hersant et Nana Mouskouri. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter et à demain les amis, dès 6h57.